journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. Pendant 30 minutes, l'antenne d'Africa numéro 1 vous appartient aujourd'hui. Nous attendons vos réactions à la situation à Beni. 17 personnes enlevées lundi soir, une vingtaine de personnes assassinées le week-end dernier depuis 4 ans. Cette région du Nord Kivu est le théâtre d'attaques mortelles attribuées à la rébellion ougandaise. Alors les ADF sont-ils vraiment derrière ces attaques? Comment expliquer la persistance de ces attaques malgré la présence de la MONUSCO et des FARDC? Nous en parlerons avec Rodriguez Katsuva, journaliste notamment pour le site Habari RDC. Pour intervenir, nous faire part de vos commentaires, poser vos questions, composez dès maintenant le 01 55 07 58 00. Depuis la France et depuis partout ailleurs dans le monde, n'oubliez pas l'indicatif 00 33 1 55 07 58 00. Mais avant de parler du sujet du jour, direction le répondeur pour écouter quelques-uns des messages que vous nous avez laissés.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Oui, bonjour amis auditeurs, c'est Guillaume de Beng. J'appelle aujourd'hui pour me prononcer un tout petit peu sur la situation politique en Côte d'Ivoire, à savoir les élections couplées régionales et municipales. Alors, je dirais aux Ivoiriens de savoir, d'avoir la retenue les uns envers les autres, de faire une campagne civilisée, une campagne citoyenne, une campagne de réconciliation. Vous savez, la Côte d'Ivoire a traversé, nous sommes tous sans le douter, une période de crise pendant au moins 10 ans. Qui est aujourd'hui ou qui est en train de se solder aujourd'hui par la clairvoyance du président Alassane Ouattara et le président Bédier. Mais malheureusement, la politique est un jeu où chacun pense à ses intérêts. Le PDCI ne se voyant plus dans la même droite ligne que le RDR a décidé d'aller de faire cavalier seul. Mais là n'est pas la solution. On peut aller en cavalier seul, c'est pas grave, mais dans la fraternité, dans la paix, dans la tolérance. Merci. Guillaume de Beng.
Bonjour, chers amis auditeurs, chers frères de Africa numéro 1. J'appelle là pour dire deux trucs parce que je suis pas xénophobe, je suis ivoirienne. Et en fait, je suis fatigué d'entendre à chaque fois les autres frères des autres pays, communautés, la sous-région qui vont chez nous et qui passent pour venir voir venir en Europe. À chaque fois qu'on leur pose des questions, ils disent qu'ils sont ivoiriens, ils sont ivoiriens, ils sont ivoiriens. Pourtant, nous les Ivoiriens, on a notre accent, nos frères Camerounais ont leur accent, nos frères Buxavons ont leur accent. Tous les pays africains, les 51 pays, on a notre accent. Moi, je vais leur dire, ils n'ont qu'à arrêter. S'ils quittent leur pays pour venir en Europe, qu'ils n'ont pas réussi à traverser, qu'on veut leur poser des questions, parce que c'est, j'ai écouté sur France Inter, ils n'ont qu'à dire sur Camerounais, ils n'ont qu'à dire sur Burkinabé, ils n'ont qu'à dire sur Béninois, ils n'ont qu'à dire sur Togolais, ils n'ont qu'à dire d'où ils viennent. Ils n'ont qu'à arrêter d'envahir notre pays. Je suis désolé, parce que toi, c'est trop. Nous, chez nous, tout le monde peut arriver chez nous pour réussir, mais nous, on ne peut pas aller ailleurs pour réussir. On en est marre. Moi, je le dis aujourd'hui, on en est marre. Parce que il faut pas avoir honte de son pays. Pourquoi avoir honte de leur pays quand ils sont encastrés entre la Libye et les autres pays? Ils disent qu'ils sont ivoiriens. Trop, c'est trop. Ça suffit.
Oui, bonjour, amis auditeurs. Je voulais répondre un peu à tout ce qui se passe en France ici. Moi, je suis un peu choqué que les Français soient aussi choqués que Manuel Valls veuille se présenter comme maire à Barcelone. Mais qu'est-ce qui vous étonne? Quand vous prenez les autres personnes qui ne sont même pas originaires des pays français, puis vous partez des pays africains du moins, et puis vous partez les imposer là-bas, vous en fichez de ce que la population ou bien le peuple africain même pense. Vous parachutez des personnes, comment on appelle ça, dans les pays pour qu'ils soient président de la République, là. Vous avez oublié. Mais de la façon, ça vous choque aujourd'hui. C'est comme ça, ça nous choque toujours. C'est comme ça, ça nous choque. Vous nous amenez des personnes même qui ne sont pas originaires de nos pays. Et puis, vous nous les imposez pour qu'ils soient présidents de ce pays. Mais attendez-vous à ça. Ça vous loupe. Merci.
Chers amis du JDA, bonjour. Chers auditeurs de la radio africaine, bonjour. J'ai voulu juste évoquer deux choses. à l'Assemblée générale des Nations Unies, hier, nous avons suivi tous les discours d'Emmanuel Macron, le président français, et les discours de Trump, le président américain. Chers Africains, ne voilons pas la face. Le discours de Macron, c'est quoi? C'est le discours néocolonial. Un discours plein d'hypocrisie qui cherche à faire croire aux gens qu'on est dans la mondialisation. Venez, on va partager, on va constituer un monde de paix. Mais derrière ça, c'est un monde colonial, néocolonial, que Macron veut juste pour exploiter les faibles. Mais Trump, il est juste. Il dit d'abord son peuple, d'abord les États-Unis, d'abord le patriotisme. Il va entretenir de bonnes relations avec tous ceux qui respectent les droits de l'homme, tous ceux qui respectent leur peuple, tous ceux qui ont le patriotisme et l'amour de leur pays. Voilà un discours juste et réel. Chers Africains, ne voilons pas la face. Moi, je pense que jamais la France va changer, jamais l'Europe va changer. L'Europe considère le tiers-monde toujours comme un monde qui doit appauvrir et qui doit toujours chercher à piller. Sincèrement, les discours de Macron n'ont rien de nouveau, c'est juste un discours néocolonial. Je vous remercie, Max de la région parisienne.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Vous pouvez désormais intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 01 55 07 58 00. Aujourd'hui, nous parlons de la situation à Beni, cette région du Nord Kivu, dans la République démocratique du Congo. Une personne a été tuée, 17 enlevés lors d'un raid attribué à un groupe armé d'origine ougandaise et Allied Democratic Forces, ADF, lundi soir, hein, contre Oicha dans l'est de la RDC. Lundi également, les organisations de la société civile de Beni avaient décidé d'observer une grève générale ville morte jusqu'à vendredi. Les habitants dénoncent la puissance de l'armée congolaise et des casques bleus de la MONUSCO. Alors les ADF sont-ils vraiment derrière ces attaques? Comment expliquer la persistance des attaques malgré la présence de la MONUSCO et des FARDC? Nous en parlons tout de suite avec Rodriguez Katsouva, journaliste pour Habari RDC. Rodriguez Katsouva, bonjour.
Bonjour Stéphanie Hartmann et bonjour à tous les auditeurs de la radio Africa numéro 1.
Merci d'être de nouveau avec nous, hein, Rodriguez. Alors samedi soir, une attaque a fait au moins 19 morts. À chaque fois, rappelle le site Africa Arabia, c'est le même mode opératoire la nuit, le plus souvent à l'arme blanche. Cette fois, les assaillants auraient revêtu des uniformes militaires. Alors, ces attaques sont régulièrement attribuées notamment par les autorités congolaises à la rébellion ougandaise des ADF. Mais elles ne sont jamais revendiquées. Ma première question sera celle-ci, Rodriguez Katsouva. Est-ce vraiment les ADF qui sont derrière ces attaques et quels seraient leurs intérêts à s'attaquer à des citoyens congolais?
Alors, on aurait pu croire que ces ADF, si c'était encore dans les années 2014 ou bien 2013, mais aujourd'hui, ADF est devenu comme un bouc émissaire, comme un autre code pour dire, voilà, tout ce qui arrive à Beni est le fruit des ADF. Personnellement, je n'y crois pas, après des reportages, après la récolte de témoignages de beaucoup de témoins directs ou bien des rescapés. Donc, c'est devenu presque un faux fuyant, un fourre-tout. Tout ce qui est comme attaque sur Beni, on veut attribuer ça à des présumés d'ailleurs ADF sans qu'il y ait aucune confirmation.
C'est ce que pense aussi le groupe, le GEC, le groupe d'experts sur le Congo qui a fait plusieurs enquêtes, qui a mené son enquête dans la région de Beni. Je vais vous lire, Rodriguez, et aussi aux auditeurs, ce qu'écrit le GEC au niveau des massacres. Il dit « Les massacres ont connu un mode opératoire varié, ce qui pourrait penser que plusieurs groupes sont impliqués, selon le GEC. Les tueurs se déploient en groupes de taille variable, pouvant compter d'une dizaine à une cinquantaine de personnes. Ils surprennent souvent leurs victimes pendant la nuit, mais opèrent aussi parfois le soir. » La composition des groupes diffère, ce sont parfois des petits groupes ou alors des groupes mixtes composés d'hommes, de femmes et d'enfants. Ils utilisent parfois la ruse pour distraire leurs cibles ou les voisins. Les enfants jouent du tam-tam et chantent pendant qu'une partie des adultes tue et qu'une autre surveille les parages ou attend que l'opération soit terminée pour compter les morts. Les assaillants peuvent piller le lieu du massacre ou repartir sans rien emporter. Ils peuvent être vêtus de tenues militaires des forces armées congolaises, entre autres, ou combiner des camis avec des vêtements ordinaires. Dans tous les cas, après les carnages, ils se retirent tranquillement, sans précipitation. On a aussi remarqué qu'ils préfèrent utiliser les armes blanches, machette, hache, couteau, marteau et ou. Rodriguez Katsouva, on a du mal à comprendre les mobiles de ces attaques. Quelles sont les pistes envisagées par les forces armées congolaises et les forces de police qui sont sur place? Quelles sont les raisons de ces attaques?
Alors, jusque-là, ça reste une nébuleuse. On n'en connaît rien. On ne sait pas ce que les renseignements congolais ont trouvé jusque-là pendant 4 ans. Et ce qu'il y a, ce sont des spéculations de certains chercheurs ou bien de la société civile. Il y a plusieurs théories. Certains qui disent que c'est une théorie d'occupation. On veut faire peur aux populations qui habitent là-bas pour que... Il y a une ancienne théorie qui disait qu'on voulait étendre le royaume Yira, donc qui comprend une tribu qui est commune à l'Ouganda et en RDC, et qu'on voulait étendre ça. D'autres parlent des intérêts économiques vu le pétrole qu'il y a et les cacao autour de ça. Mais quoi qu'il en soi, ça reste une grosse nébuleuse. Et ce que je voudrais dire, c'est que récemment, dans une émission il y a 2 ans, je recevais un député qui, avec un groupe de députés du Nord Kivu, était parti parler à la population et aux rescapés. Et comme, bien sûr, comme l'échec l'avait souligné, c'est près des 6 groupes différents qui avaient été ciblés par la population et des rescapés. Donc ce n'était pas du tout que les ADF. Et parmi ces groupes, bien sûr, on a parlé d'un résidu des groupes des ADF, parce que vous allez vous souvenir qu'avant l'attaque, avant qu'on se mette à attaquer les ADF qui étaient au pays depuis 1995, donc 1995, et on les a attaqués parce qu'en 3 ans, entre 2010 et 2013, ils avaient déjà enlevé près de 600 personnes. Ils commençaient à faire des enlèvements de population et tout, c'est pour ça qu'on a voulu en finir. Et après que les FARDC avaient gagné le combat contre les M23 fin 2013, donc 2014, on envoie Mamadou et son équipe là-bas pour combattre. Et Mamadou est assassiné malheureusement en janvier 2014. Le général Bahouma reprend les rênes du combat. Et, souvenez-vous bien, Bahouma a combattu les ADF et est arrivé jusqu'au centre des ADF, notamment leur base de Médina, et il les a dispersés. Parce que depuis le début, on disait à ces ADF que c'était un petit groupe d'hommes sans aucune capacité de nuisance. C'est comme ça que les FARDC les ont définis. Et donc, on peut dire qu'autour de 2014, malheureusement, Bahouma est empoisonné et il meurt en Afrique d'ici, selon ce que le procès avait montré. Et depuis donc 2015, on peut être certain que les ADF n'étaient qu'un petit résidu. Alors, selon les populations, il y a d'abord le premier groupe des ADF, les résidus des ADF qui seraient venus, qui se vengeraient. Donc, ce n'est pas écarté. Le deuxième groupe, on parle de... Il y a un colonel Bissamaza, il est Tutsi congolais, il est Tutsi en fait, et il était avec une grosse faction de militaires dans Abéni. Il a fait défection et depuis personne ne sait où il est, mais selon les rescapés, ils reconnaissent des militaires donc de ce Bissamaza. Personne ne connaît sa trace aujourd'hui. Certains disent qu'il est des fois en Ouganda, quelquefois, mais ces hommes avec qui il est parti dans la forêt, on ne sait pas leur suite. On parle aussi de certains tueurs qui parlent la langue rwandaise.
Le
Kinyarwanda, qui opèrent comme, vous vous souvenez, en 1994, les machettes qui ont été utilisées lors du génocide au Rwanda. Alors, on parle des Hutus rwandais, donc, qui seraient aussi derrière ça. Et après, un quatrième groupe, on parle de FARDC, certains militaires de l'armée nationale. Ça, c'est la population qui l'a dit. La population est des rescapés. Donc le quatrième groupe serait de ces FARDC vers eux.
On parle même d'un général Muindo Akili Mundos, hein, qui serait complice de certains massacres.
Ouais, on dit cela, mais c'est que les populations ont dit, parce que les populations, elles reconnaissent les gens. Elles partent au champ et voient dans des positions. Alors les rescapés disent, on se souvient d'avoir vu ces militaires FARDC. Mais autre chose aussi qui peut faire comprendre les FARDC, c'est que en 2016, par exemple, vers la fin de l'année, quand on a vu que la population pensait que c'était les FARDC qui tuaient, on a décidé de changer de tenue. Oui. On a porté une tenue spéciale qui serait portée par les FARDC qui sont dans l'opération Soukola 1 à l'époque, avant que ça ne soit divisé. Malheureusement, quelques jours juste après l'arrivée de ces tenues toutes neuves, un massacre est commis à Beni. J'étais là pendant le reportage et les présumés ADF portaient les nouvelles tenues des FARDC. Ouais. Ce qui fait dire qu'il y a quand même complicité, qui fait penser qu'il puisse y avoir complicité à un certain niveau. Et l'autre groupe, on parle des UPDF, qui est l'armée ougandaise. Donc on dit certains. D'ailleurs, il y a eu certaines personnes, certaines victimes, donc lors des attaques, les assaillants portaient des tenues
de l'armée ougandaise.
De l'armée ougandaise.
D'accord. Et, voilà, et le dernier groupe, vous parliez de six groupes, Rodriguez.
Oui, je parlais de six groupes. Le dernier, je me souviens pas trop bien parce que j'ai fait l'émission il y a 2 ans, mais en gros, c'est on parle de gens de Raia Mutomboki.
On entend bien qu'effectivement, les groupes sont variés, comme le disait le groupe d'experts sur le Congo, finalement. Difficile d'attribuer ces attaques à un seul groupe. Restez à l'écoute, Rodriguez Katsouva. Les auditeurs sont nombreux à vouloir participer et faire part de leurs commentaires sur cette situation à Beni. On commence avec Paul, ensuite on écoutera Vekam. Paul, bonjour.
Oui, allô, bonjour Madame Stéphanie et bonjour tous les auditeurs d'Afrique numéro 1.
Bonjour Paul.
Vraiment, premièrement, je m'en vais... dire mes condoléances à toutes les familles congolaises de Beni et en général ceux de la République démocratique du Congo. Le problème qui se pose avec la République démocratique du Congo, c'est M. Kabila. Kabila, aujourd'hui, se sent vers la fin et il faut qu'il sème la terreur, la peur, afin que la population ne puisse pas réagir au mois de décembre. On ne va pas se voiler la face parce qu'aujourd'hui, la MONUSCO... Sur 100% de l'effectif, il se trouve que 70% de l'effectif de la MONUSCO se trouve à l'est du Congo, où chaque semaine, il y a des massacres devant la MONUSCO. Donc, nous ne savons pas, est-ce que c'est la MONUSCO qui autorise tout ça, ou c'est le gouvernement de Kabila pour faire peur au peuple congolais. Parce qu'aujourd'hui, il y a de cela une semaine, ils ont tué des jeunes garçons au niveau de Kinshasa, on n'en parle pas. Ils ont tué au niveau de Kasaï. Donc, il y a des tueries partout pour faire peur au peuple congolais. Et pour cela, je m'en vais dire au peuple congolais qu'il est temps que nous puissions regarder de l'avant. De l'avant, ça veut dire que Kabila n'a pas envie de quitter le pouvoir. Il va semer la terreur et après, ils vont décréter le pays dans un état d'urgence où nous n'aurons pas les élections en décembre. Mais malheureusement, parlons des élections. Comment faire des élections avec des gens qui ont déjà manipulé tous les ordinateurs?
Mais surtout, peut-être, Paul, comment faire des élections dans des zones où des poches de violence sévères perdurent, hein. Vous évoquiez le Kasaï et effectivement la situation dans les deux Kivu est aussi instable et l'insécurité est présente depuis 20 ans. Merci, Paul, de votre participation à ce débat. Je demanderai à Rodriguez un mot... après l'ensemble de vos interventions. Vekam, qui nous appelle depuis Lubumbashi. Vekam, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste. Bonjour à l'invité et aux auditeurs qui nous écoutent.
Bonjour, Vekam. Merci d'être avec nous depuis Lubumbashi. Alors, quel regard portez-vous sur ces attaques à Beni? Est-ce que vous y voyez une volonté de déstabiliser la région, comme le disait Paul à l'instant?
Justement, je vais rejoindre les conseils qui viennent d'intervenir. Je sais que les responsables de tous ces massacres, c'est les gouvernements en place. Ça fait longtemps et on ne fait que publier de l'apport de décès du jour au jour. Mais en fait, de notre part, nous, en tant que peuple congolais, ça nous fait mal. Ça nous fait très mal parce que si de leur part, ils pensent que c'est bien, quand ils le publient du jour au jour comme ça, ça fait peur à certains, hein. Ce n'est pas du tout normal, ce sont les vies humaines que l'on est en train de perdre du jour au jour. Et ce n'est qu'une politique, comment expliquer que la MONUSCO est sur place, l'armée congolaise sur place, en union, mais qui ne parviennent pas jusqu'à présent à lutter et mettre fin à ces forces étrangères, à ces troupes armées qui viennent perturber la morale du citoyen congolais, qu'ils viennent, afin que nous parviennent peut-être à démoraliser la population, à mon même avis, les gouvernements et la MONUSCO tous sont dans la recherche de minéraux. Ils ne sont pas là pour lutter contre les troupes armées, mais ils sont là peut-être juste pour extraire les minéraux sur le sol congolais et amener pour les profits individuels, pour les profits personnels. Voilà un peu ma réflexion du fait que on n'est pas du tout content, notamment c'est que nos condoléances les plus affichées à toutes les familles du Béni et puis de l'Est de notre pays. Vraiment, et les gouvernements, ensemble avec la MONUSCO, bien que le gouvernement actuellement demande le retrait définitif de la MONUSCO, c'est normal parce qu'on n'arrive pas à comprendre le poids de la MONUSCO sur le Congolais et surtout à l'Est du pays.
Bien sûr, Vekam. On comprend bien, Vekam, effectivement, hein, beaucoup d'habitants et au-delà hein, s'interrogent hein, sur le rôle de la MONUSCO hein, déployée pourtant dans cette région. Et Vekam vient de le rappeler, hein, hier à la tribune de l'ONU, le président Joseph Kabila a demandé une nouvelle fois dénoncer l'ingérence et demander le départ de la MONUSCO. Merci beaucoup, Vekam. On va écouter Monsieur Mata. Monsieur Mata, bonjour.
Bonjour, Madame Stéphane.
Alors, bonjour, Monsieur Mata.
J'ai beaucoup de regrets, j'ai de larmes.
Alors, est-ce que vous pouvez enlever votre kit main libre, Monsieur Mata, parce qu'on vous entend un peu mal, s'il vous plaît.
Là, c'est bon.
Oui, allez-y. La ligne n'est pas très bonne, mais on va essayer.
J'ai beaucoup de douleurs et beaucoup de regrets. Ce qui se passe à Béni.
Bien sûr.
Vous m'entendez?
Oui, allez-y.
Oui, là, je vous dis ce qui se passe à Béni, à l'est de la RDC, c'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'armée. On n'a pas l'armée. Moi, je me rappelle à l'époque de Mobutu.
Mais pourtant, l'armée, vous pensez que c'est l'inefficacité de l'armée congolaise?
L'armée incompétente. Les compétences de l'armée, les compétences de tous les dirigeants qui sont dans le gouvernement. Je me rappelle à l'époque de Mobutu, les forces armées héroïques, on a formé des militaires rwandais, angolais, tchadiens au Congo. Là, comme l'armée est commandée par des officiers rwandais en tête de James Kabarebe, donc c'est le chaos.
L'incompétence de l'armée, Monsieur Mata. Je vous garde pas longtemps parce que le son est pas très bon, hein, mais on a bien compris que vous dénoncez l'incompétence des forces armées congolaises. 01 55 07 58 00. Si vous voulez intervenir, hein, on rappelle, hein, ce conflit depuis 4 ans a fait plus de 900 victimes et 180 000 déplacés. Et derrière ce chiffre, cette comptabilité, il y a aussi des femmes et des hommes qu'il ne faut pas oublier. Rodriguez Katsouva, cette question au cœur de l'intervention des auditeurs d'ailleurs, et aussi cette question qui mine les habitants de Béni. Comment expliquer que c'est la MONUSCO, les FARDC ne parviennent pas à arrêter ces attaques ni à neutraliser ces hommes armés?
Alors ce que je voudrais, c'est que d'abord premièrement parlant de nos forces armées de la République démocratique du Congo, il y a déjà beaucoup de militaires qui ont donné leur vie pour cela. Donc moi, je respecte cela. Et je respecte aussi, surtout les casquets bleus. Il y a récemment 15 qui étaient morts. Il y en a encore d'autres qui sont morts et qui sont tombés là-bas, des casquets bleus tanzaniens et d'autres nationalités. Un militaire qui meurt pour son pays, c'est de l'honneur. Mais quand il meurt encore pour un autre pays, c'est encore plus d'honneur, donc, que leurs âmes reposent en paix. Et je voudrais dire aussi qu'on peut difficilement penser pire sort que le sort de la population de Béni, qui à la fois est en train de faire face à Ebola et à cette affaire. Il y a quelques jours, les députés du Nord Kivu ont été avec le ministre qui est en charge de l'armée et tout, Christian Tamatabe en fait, et il a dit aux députés que pour le moment, les forces armées de la République démocratique du Congo n'étaient pas du tout outillées pour faire face à cette guerre qu'ils appellent une guerre asymétrique, donc que l'ennemi est en train de d'imposer. Et là, c'est un aveu, bien sûr, donc de l'échec et que les FARDC ne peuvent rien y faire. Bon, le chef d'état-major, donc, il est à Béni, et même le gouverneur y est allé aujourd'hui. Et peut-être que on espère que ça pourra s'arranger. Mais ce que j'ai craint, c'est ça. Depuis tout ce temps, il y a plus de 10 ans, on n'a pas fait on n'a pas changé donc des militaires. Mmh. Et toute cette affaire en fait apporte tellement d'argent. Et quand une affaire commence à porter de l'argent à certains politiciens, à certains officiers, en fait, on dit que ce genre de guerre ne finissent pas. Mmh. Donc c'est un cercle vicieux.
Dans quelle mesure ça rapporte de l'argent et à qui, Rodriguez Katsouva?
Alors, il y a eu même un procès qui a été ouvert il y a quelques mois. Il y a des officiers qui détournaient les rations des militaires. Et il y a la frontière entre la RDC et l'Ouganda qui, du coup, sont plus contrôlés, disons. Et vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de transactions qui échappent ainsi aux douanes et accises de la République démocratique du Congo, mais aussi tout ce qu'on parle de cacao et toutes les autres richesses qu'il y a dans la région nord de la province du Nord Kivu. Voilà, c'est autour de tout ça qui fait que certains se retrouvent là-dedans avec des revenus financiers. Et ce que je voudrais souligner aussi, c'est que je ne crois pas vraiment que notre armée soit si incompétente que cela. Je pense que c'est l'armée qui se bat contre sans connaître ce qui se passe. Je crois qu'il doit y avoir seulement une poignée de personnes qui savent réellement ce qui se passe à Beni, et personne ne comprend vraiment rien, parce que le président a déjà promis à plusieurs reprises qu'on mettrait fin à ce système ADF. Les ADF, les présumés ADF, ils arrivent en plein centre-ville de Beni. Ils tuent. On a un bilan des militaires tués, des civils tués, mais on n'a aucun bilan sur les ADF, les assaillants. Comment un groupe peut-il se permettre d'attaquer une ville et qu'on ne sache pas c'est que eux, ils ont subi comme dommage. Ils ont pillé des boutiques, ils ont pris de l'argent et sont répartis comme ça. C'est presque toujours comme ça à chaque instant. On ne peut pas comprendre cela à Nathalie Hartmann.
Beaucoup d'incompréhension, Rodriguez. On l'entend bien. Restez à l'écoute. Il nous reste quelques minutes encore. On va retourner du côté du standard. Écoutez José et Jean-Yves. José, bonjour.
Oui, bonjour, Madame Hartmann. Moi, je voulais simplement poser la question à votre invité. Tous ces rebelles-là, plusieurs groupes, six groupes comme ça, qu'est-ce qu'ils revendiquent au GIS? Ils revendiquent quoi?
Alors, on va voir si Rodriguez...
quoi comme leur droit? Parce qu'on peut pas venir tuer comme ça, comme en dessus de, des animaux, sans revendiquer quelque chose. Hein? Donc, ils ont un but pour dire que, bon, voilà... on se bat pour tel droit, quoi.
C'est ce qu'on disait, José et Rodriguez essaiera de vous répondre peut-être dans quelques instants, hein, c'est que finalement, ces multiples attaques ne sont jamais revendiquées. Donc voilà, difficile de savoir qui se cache vraiment et surtout ce que veulent ces assaillants. Merci, José. On va écouter Jean-Yves et ensuite on reviendra vers Rodriguez. Jean-Yves, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tout le monde.
Bonjour Jean-Yves, vous déplorez l'attitude du pouvoir de Kinshasa?
Avant de commencer déjà à déplorer cette attitude, j'allais dire la guerre qui se passe à l'est du Congo, les ADF, ce ne sont pas des Congolais, c'est connu de tous, c'est des Ougandais, des rebelles Ougandais qui voulaient renverser les pouvoirs de Museveni. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça va faire plus de 20 ans, on n'attend pas une mouche tuée par les ADF, ou une mouche ougandaise tuée par les ADF, ils tuent que des Congolais. Ça, c'est de 1. Donc, cela veut dire qu'il y a un complot. Il y a un complot qui se passe entre le généraux ou le politique congolais entre eux. Donc, de 2, Kabila, il était hier sur la tribune de l'ONU. C'était l'occasion pour dénoncer cela. Mais le président, le pseudo-président, il s'est incliné devant la mémoire de Kofi Annan sans pour autant demander même une seconde une seconde de silence pour le mémoire de ses compatriotes tombés par la barbarie ADF Nalu. Donc cela, ça sent que Kabila n'a pas les soucis des Congolais. Donc on peut mourir en masse, c'est pas son problème. Et aujourd'hui, on donne la responsabilité à ces pauvres militaires. Mais c'est une guerre asymétrique. Quand ils arrivent, c'est pas annoncé, c'est pas une guerre conventionnelle. Donc le militaire ne peut rien parce qu'il meurt aussi dans ce complot. Donc, on comprend plus rien. Les ADF, ils sont là pour combattre les Ougandais, leurs compatriotes ougandais pour renverser le pouvoir. Mais ils ne tuent pas les Ougandais, ils tuent les Congolais.
Donc, si vous avez écouté l'émission, Jean-Yves, depuis le début, on expliquait justement qu'il y avait... Voilà, que les ADF étaient une piste parmi d'autres, en tout cas que c'était un résidu d'ADF. Merci beaucoup Jean-Yves de votre contribution. Rodriguez, vous aurez un peu plus d'une minute pour conclure, pour revenir peut-être sur la question des revendications, alors peut-être pas concernant seulement Beni, mais peut-être dans l'ensemble de l'Est de la RDC, il y a de nombreux groupes armés. Est-ce que tous ces groupes armés ont un projet politique ou est-ce qu'il s'agit seulement faire de la prédation? Et la deuxième question, c'est une réaction au discours de l'ONU hier de Joseph Kabila qui demande le départ de la MONUSCO.
Alors, donc, parlons des revendications, il y a autour des plus de 90 groupes armés, rien que pour le Nord Kivu. Donc, il y a des petits groupuscules qui se définissent comme groupuscules pour protéger une certaine ethnie. Il y a des petits groupuscules qui disent nous protégeons telle tribu. Il y a des petits groupuscules autour des carrés miniers pour en exploiter. Il y a les FDLR qui sont parmi les principaux, en fait, qui eux, voilà, ce sont les génocidaires du Rwanda et qui sont jusqu'à aujourd'hui en train d'imposer à Kigali un dialogue entre FDLR et Kigali pour qu'ils puissent rentrer dans leur pays. Et voilà, donc pour les ADF, malheureusement, pour Beni, on ne comprend rien. On ne comprend vraiment rien. Il n'y a personne qui n'y comprend rien. On dit que c'est terroriste, il n'y a jamais de revendication. Mmh. Alors que vous savez bien que l'État islamique, des fois, revendique certains attentats qui ne sont même pas à eux. Donc un vrai terroriste ne peut pas faire quelque chose sans le revendiquer.
Rodriguez, on arrive à la fin de cette émission. Je pourrais pas vous... Il reste moi pas assez de secondes pour vous laisser la parole, mais je pense qu'on reparlera effectivement peut-être du discours de Joseph Kabila. Merci Rodriguez d'avoir été notre invité.
Merci
à vous.
Et au revoir.
Au revoir Rodriguez Katsouva. Je rappelle que vous êtes journaliste notamment pour le site Habari RDC. J'invite les auditeurs à aller lire vos articles. Merci à tous de votre participation. On se retrouve demain pour une nouvelle édition du journal des auditeurs. D'ici là, prenez grand soin de vous à l'écoute d'Africa numéro 1. À demain.